De cause à effet, le magazine de l'environnement.
Les éoliennes s'invitent partout, y compris dans le patrimoine littéraire. Au pays de Proust, en Eure-et-Loire, une bataille a fait rage et a projeté l'illustre homme de lettres dans les affres de l'Anthropocène. En effet, en 2019, dans le secteur d'Illiers-Combray, un projet d'implantation d'éoliennes a vu le jour, sur fond de lutte contre le réchauffement climatique. Mais c'était sans compter sur la mobilisation d'amoureux de Marcel Proust, qui revendiquèrent la protection des paysages proustiens, ce que l'on retrouve dans « À la recherche du temps perdu », par exemple. Et ils ont eu gain de cause. Une fronde que l'on retrouve ailleurs en France, où les oppositions se font entendre contre les éoliennes, synonyme pour certains de paysages dénaturés, d'atteinte à la biodiversité, à la santé, et pour d'autres de développement aveugle ou encore d'industrialisation des campagnes. L'occasion pour nous d'analyser ce terrain sensible, révélateur d'une fracture entre deux aspirations, le développement durable et le capitalisme vert, dans un contexte de réchauffement climatique. Avec nous, trois invités en direct. Julien Lacaze, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président de l'association Sites et Monuments. En face de vous, Stéphane Louya, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chef de service adjoint à l'ADEME, l'Agence de la Transition écologique, et vous êtes dans le service réseau énergie renouvelable. Et puis en distanciel, Grégoire Souchet, bonsoir.
Bonsoir à vous.
Vous êtes journaliste à Reporter, notamment, et puis auteur du livre « Les mirages de l'éolien », un livre édité au Seuil dans la collection Reporter. Et dans l'œil du Monde Planète, c'est la journaliste du quotidien Le Monde, Mathilde Gérard, qui sera des nôtres et elle nous parlera du premier abattoir mobile. Bienvenue à toutes et à tous dans le magazine de l'environnement de France Culture, concocté par la formidable équipe à mes côtés, Anaï Morales, avec Anne Gouzon, Valérie Ernoul, Vanessa Chang, et la réalisatrice Alexandra Malka, qui œuvre ce soir avec, à la technique, Jean Frédérics.
C'est un jeune châtelain de 32 ans qui nous ouvre ses portes.
Bienvenue au château de Montmartin.
Un propriétaire heureux jusqu'à cette découverte il y a 15 jours. Un projet de parc éolien presque sous ses fenêtres.
Elles vont être à 1 km à peu près. Et ça sera les plus grandes du département. Évidemment, ça met complètement un frein énorme à ce projet. Les gens vont pas faire une cérémonie là, sur la terrasse, avec 4 à 6 ventilateurs de 200 mètres qui tournent derrière eux. Ça n'a aucun sens.
Le projet a été lancé par le maire de la commune voisine. Au milieu de cette forêt de chênes, il confirme l'implantation des mâts.
On s'aventure vraisemblablement vers 4 éoliennes. Pour une hauteur comprise entre 190 et 200 mètres. Ça peut être une opportunité, ces ressources éoliennes, pour nous d'avancer dans l'avenir.
Sur les retombées fiscales, c'est assez connu, il y a plusieurs types de fiscalité et ça peut aller, selon l'envergure du projet, jusqu'à 50 000 euros par an, globalement, selon nos estimations.
Le châtelain les observe, à distance, mais crie désormais à la saturation.
J'en ai 16, là, à 5 km. Je les tolère, mais d'un point de vue nuisance, à 5 km, c'est acceptable. Là, à 1 km, c'est absolument inacceptable.
C'était un extrait de reportage diffusé sur France 3 le 13 septembre 2021. Une situation qui n'est pas sans rappeler celle qui s'est jouée en Eure-et-Loire dans le secteur d'Illiers-Combray, Julien Lacaze, sur les terres de Proust, où un projet d'éolienne a semé le trouble. Et là, c'était en 2019. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel des faits ?
Petit rappel des faits, d'abord géographiques. On est à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Chartres, donc c'est Illiers-Combray, qui est donc la résidence de vacances du jeune Proust. Et donc c'est un cas assez unique de paysage littéraire, c'est-à-dire paysage qui a été décrit par Marcel Proust dans la recherche du temps perdu, avec des éléments évidemment de recomposition, des choses qui sont très réelles, des descriptions de plaines, de paysages de rivières, avec une opposition entre le fameux côté de Guermantes, qui est donc le côté du château de Villebombe. C'est un château qui existe en réalité, dans lequel il y a déjà un parc éolien qui a été installé à 4 km de ce château et à 5 km d'Illiers-Combray.
Alors un château, avec un bâtiment médiéval qui a été d'ailleurs la demeure de Sully, hein, si je ne m'abuse, premier ministre de Henri IV.
Du 14e siècle, ouais. Un château assez irréel, tout en briques, qui ressemble presque à un jouet d'enfant, dont on peut vraiment comprendre qu'il a créé tant de fascination chez le jeune le jeune Marcel Proust. Et puis, donc ça, c'est, voilà, c'est le côté de la haute aristocratie, de ce monde un peu inaccessible, rêvé, voilà, dans lequel maintenant, eh ben, il y a, voilà, entre effectivement Illier et ce fameux château, un parc éolien qui, lui, est sorti de terre. Et puis, un autre parc éolien qui est de l'autre côté, qui est le côté de mes églises, mais qui existe puisqu'il y a un village qui s'appelle Mère Église, qui est, voilà, et qui menace, lui, d'être entouré par un projet de 12 machines, puis maintenant qui a été réduit à 8 machines. Projet alors pour lequel on a obtenu effectivement le rejet par le préfet, ce qui est assez rare. Oui. En général, les préfets donnent les autorisations, là ils les ont refusées, mais qui a été attaqué par le promoteur. Et donc, nous sommes en soutien de l'État, ce qui n'arrive pas fréquemment, mais il faut savoir que très souvent, les promoteurs arrivent à parvenir à implanter leur parc malgré un refus préfectoral. Et donc là, le côté de mes églises, c'est le côté de chez Swann, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement ce manoir de Tansonville, qui existe d'ailleurs dans la réalité, qui était le manoir de Swann et évidemment de sa fille Gilberte, et puis aussi le manoir de Mirougrain, alors qui fait évidemment penser à Montjouvin, qui est toujours situé de ce côté du côté de Mère-Église, donc à l'ouest, qui était la maison de la fameuse mademoiselle Vinteuil, donc qui était donc cette femme un peu vénéneuse, homosexuelle, qui fascinait beaucoup le jeune Marcel Proust. Donc voilà, une association, ce côté de Mère-Église, c'est un peu le côté des femmes. Il en parle beaucoup, d'ailleurs il associe les femmes au paysage dans son œuvre. C'est assez fascinant, avec de très belles descriptions, cette fois de cette plaine, en fait, où voilà, il y a d'immenses champs de blé, du vent, et donc là, autour de Mère-Église, un parc donc de 12 éoliennes qui, pour le moment, voilà, fait l'objet d'un contentieux qui n'est pas terminé, donc on ne sait pas, peut-être qu'il s'implantera là. Oui. Et puis partout, en fait, en réalité, aux quatre points cardinaux, donc il y a deux autres parcs qui menacent toujours dans un rayon de 5 km de Saint-Turet, Illier-Combray, qui sont des parcs, enfin, dont un est construit et un autre au sud est en projet. Donc vraiment, voilà, un encerclement complet d'Illier qui est devenu Combray. Alors c'est ça qui est fascinant, c'est que la fiction devient réelle, c'est-à-dire que le maire s'est approprié en fait le nom de fiction. Oui. Voilà, et tout est comme ça.
Et la commune est d'ailleurs site patrimonial remarquable. Absolument, depuis 2019, absolument. Et elle a installé son printemps proustien. Absolument. Et donc on voit bien effectivement que cette préservation des paysages proustiens, c'est ce qui a fait mouche, en fait, hein, on peut dire, auprès de la préfète, auprès même de l'architecte des bâtiments de France, hein, qui avait émis un avis défavorable. Grégoire Souchet, ces questions paysagères se retrouvent, hein, dans d'autres conflits locaux et combats de citoyens. C'est signe de quoi, selon vous ?
Ben, c'est signe que le paysage, c'est un enjeu politique, comme d'autres choses le sont. Effectivement, on le retrouve dans beaucoup de questions énergétiques, en fait, de projets de production d'énergie. On peut penser à des panneaux solaires, avec des grandes installations qui sont prévues, par exemple, dans les Landes, sur 1000 hectares, en coupant une forêt de pins. On peut penser à des méthaniseurs de grande envergure, comme il y en a dans les grandes plaines des Hauts-de-France. Mais le paysage, c'est aujourd'hui effectivement, dans le cadre de développement de tous ces projets d'énergie renouvelable, un enjeu de bataille. De bataille pour qu'est-ce que doit être un paysage. Et puis on l'avait peut-être oublié en France, mais c'est un enjeu de bataille intime. Je pense que c'est peut-être l'aspect qui a été le moins remarqué par les personnes qui ont mené les concertations quand il y en a eu autour de l'éolien, c'est qu'un paysage, ça fait appel, comme on le disait, hein, à du souvenir, à quelque chose d'émotion qui marque dans l'enfance et puis dans l'adolescence peut-être. Et modifier ce paysage, c'est pas du tout neutre pour les personnes qui y habitent. Et ça rentre pas forcément dans les études d'impact toujours assez facilement. Ça peut pas forcément être mesurable. Et peut-être c'est là qu'on a pêché en France.
Vous l'avez vécu personnellement. Vous avez vu la transformation du maire de Loue, hein, l'un des plus hauts sommets du Rouergue.
Oui, alors le maire de Loue, c'est une montagne. Moi, j'habite donc dans l'Aveyron. Le maire de Loue, c'est à la limite entre l'Aveyron, le Tarn et l'Hérault, pas très loin des monts de la Cône. Et ce sommet a été un des premiers où on a implanté des éoliennes au début des années 2000. Moi, j'ai grandi dans un village à 5 km à vol d'oiseau, de l'autre côté de la vallée. Et donc, on les avait vus arriver sur cette crête, un peu comme des moulins à vent quand j'étais ado. Et puis, petit à petit, il y a un parc, on a appelé un autre, de 12, 13, elles sont devenues 23, puis 30, puis il y en a d'autres qui sont arrivées par derrière, et puis au fond, il y en a 40, et puis il y a un peu cet effet qu'on disait d'encerclement, mais qui est lié au fait qu'on est dans des zones parmi les plus productives, finalement, de vent de ce secteur, et donc c'est tout naturellement que les promoteurs éoliens, comme on le fait pour d'autres énergies, sont allés chercher le gisement, c'est comme ça qu'ils disent, le gisement de vent, là où il était, et sur cette crête, donc aujourd'hui, effectivement, il y a un grand nombre d'éoliennes, comme toutes celles autour, et tout ce secteur, et c'est souvent des secteurs limitrophes, assez ruraux, entre plusieurs départements, plusieurs communes, et c'est souvent là, sur les zones montagneuses, un petit peu en altitude, que sont implantées les éoliennes. On va d'abord les mettre là où il n'y a personne, où il n'y a pas grand monde, et là où il y a du vent.
Et donc, c'est ce que vous expliquez aussi dans votre livre, des oppositions qui dessinent aussi un état social des zones rurales, c'est-à-dire il y a des zones rurales qui vivent de peu, qui ont besoin finalement de cette manne éolienne, ou en tout cas qui pensent que cette manne va pouvoir les aider, et puis d'autres qui l'accueillent plus difficilement parce que ils sont localisés des maisons secondaires, et donc là vous faites le distinguo concrètement sur ces conflits-là, ou l'acceptabilité.
Alors, ce qu'il y a, c'est que l'éolien, moi, il m'a intéressé parce que c'était avant les gilets jaunes, mais déjà, il y avait un peu en germe cette idée de France oubliée et cette idée de territoires ruraux, nous on le connaît ici. Moi, quand je suis journaliste, je fais des reportages sur la maternité qui ferme, l'usine qui ferme, encore récemment, l'usine SAM à côté de Decazeville, les questions de classe qui ferment, et donc la désertification des services publics est une réalité qui continue à s'étendre. L'éloignement aussi de l'État, en fait, et des services de l'État aussi. Et donc, pour les personnes qui vivent là, finalement, ce qui reste de la propriété, de l'identité, c'est le paysage. Et donc, c'est pas étonnant que ce soit par cette entrée-là que, finalement, la contestation des éoliennes est émergée. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a que la contestation paysagère. Il y en a beaucoup d'autres types.
On va en parler.
Mais c'est une vraie entrée.
Exactement.
Et l'éolien, en fait, en creux, il parle de paysage, mais il parle aussi de désertification rurale. Il parle aussi de comment concilier la transition écologique avec la biodiversité. Enfin, ça charrie, en fait, tout un état du pays.
Alors, justement, avant de passer un peu en revue les différents griefs qui s'expriment dans ces points de vue vis-à-vis des éoliennes, Stéphane Louya, peut-être une réaction sur ce qu'on appelle finalement la culture de l'acceptabilité de ces impacts, alors notamment visuels. On voit bien que sur la lecture des paysages, il y a cette question-là, en sachant qu'on est aujourd'hui dans un paysage qui a été sculpté par le pétrole et les énergies fossiles. Il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas forcément le paysage d'avant.
Oui, tout à fait. Je me permettrai d'intervenir modestement sur le sujet des paysages, n'étant pas paysagiste. Malgré tout, les travaux que l'on peut voir, notamment que l'on soutient de la chaire énergie paysage de l'École nationale supérieure des paysages, montrent le lien étroit entre les paysages qui ont été sculptés, notamment par l'énergie, et très récemment par le pétrole. Le pétrole a sculpté nos paysages, a construit des routes, a bâti un certain nombre d'équipements qui ne préexistaient pas avant ou qui n'auraient jamais existé si on n'avait pas eu accès à ces énergies fossiles à des prix modestes. Et donc, c'est sûr que je comprends bien tout ce qui est dit précédemment, mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier ce lien étroit et que l'ère du pétrole est malgré tout en train d'être révolue. En tout cas, on doit passer à une nouvelle ère sur le monde énergétique.
Compris sur le renouvelable, parce qu'en fait, on a un recul de 15 à 20 ans en France. Nous vivons les premiers démantèlements des éoliennes.
Oui, tout à fait. Effectivement, on a les premiers démantèlements des éoliennes. C'est vrai qu'elles sont dans le paysage depuis un certain temps, mais ce ne sont pas les seules énergies renouvelables, d'ailleurs, qui sont dans le paysage depuis un certain temps. Les technologies photovoltaïques également, la méthanisation également. Donc elles sont effectivement dans les paysages depuis un certain temps. Alors, il y a une accélération de leur déploiement. notamment lié à la nécessité d'accélérer dans la réduction des consommations d'énergie fossile. Et donc, les énergies renouvelables prennent une part importante et jouent un rôle essentiel dans la substitution des énergies fossiles et notamment dans l'effet qu'elles ont sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Oui.
Et donc,
tirer les leçons peut-être des années précédentes.
Oui, oui, tout à fait. Non, mais il y a effectivement une histoire du développement de ces énergies. Il y a des enseignements, il y a des apprentissages sur la plupart des controverses qu'on évoquera par la suite, qui permettent effectivement d'améliorer, de tirer ces filières vers le haut. Et ça fait partie des efforts nécessaires, je pense, pour permettre d'atteindre des objectifs de neutralité carbone. Je vous rappelle qu'ils sont un objectif que la France s'est confié à 2050 et dans lequel les énergies renouvelables ont un rôle de premier plan à jouer.
Julien Lacaze.
Oui, effectivement, cette chaire qui fait un travail qui pourrait être intéressant, mais il faut quand même préciser qu'elle est financée par le promoteur Boralex, qui est un promoteur éolien canadien, donc qui est très malin. Voilà, il faut quand même, voilà, les travaux qui émanent de cette chaire sont pour nous un peu sujets à caution. Et je pense qu'il faut quand même pas relativiser toute chose, c'est-à-dire que effectivement les paysages ont toujours été façonnés par l'homme, mais là on a des structures qui sont absolument titanesques, hein, et dont la dimension est vraiment inédite.
Et qui crée plus de crispation ces derniers temps, qui inquiète d'ailleurs le pouvoir en place.
Oui, tout à fait. Alors pour prendre un exemple, donc les plus hautes machines qu'on ait en contentieux dans notre association sont dans l'Allier, dans la commune de Brancey-la-Féline, et elles mesurent 241 mètres de haut. Donc il faut savoir que la tour Montparnasse, elle mesure 210 mètres. Donc vous prenez la tour Montparnasse, vous la surélevez de 10 étages et vous arrivez aux éoliennes de Brancey-la-Féline. Il faut savoir que ces machines, selon l'étude d'impact qui est donc financée par le promoteur, donc c'est pas nous qui l'avons financée, elles sont visibles à 18 km à la ronde. C'est-à-dire que des structures comme ça, on peut pas planifier en fait l'insertion dans le paysage de ces machines. Elles sont trop hautes.
D'où l'importance de revoir justement la planification, alors, de revoir ce qu'on en fait.
Parce qu'elles sont comment planifier puisque là elles sont visibles à 18 km à la ronde. Il y a des cartes qui sont très bien faites. Il y a une couleur. Enfin, on le voit sur notre site internet violette quand elles sont visibles. Et là, dans cette zone, il y a une centaine de monuments historiques. Donc ça veut dire que ce parc va en fait concerner en fait tout un territoire, une centaine de monuments historiques, alors à des degrés divers, hein. Ça peut être une visibilité directe depuis le monument, une co-visibilité en se rendant au monument, en empruntant certains chemins, mais elles ont un impact qui est considérable, et donc il faut vraiment se poser la question de leur utilité.
Et on sent que c'est une préoccupation aujourd'hui au cœur des politiques, puisqu'on va en parler, hein, il y a mise en place aussi d'un médiateur de l'éolien et d'autres contraintes qui viendraient s'ajouter. Mais continuons un peu le tour justement des griefs pour voir un petit peu ce qu'il en est. Je vous propose d'écouter ce reportage diffusé sur France 2 le 26 janvier 2021.
Jour et nuit, elle découpe le ciel et le bruit de fond est permanent. Sur ce parc, il y a 5 éoliennes installées depuis près de 2 ans et juste à côté des riverains qui se disent tous à bout, comme Aurélie Leroy. Le bruit, l'éclairage nocturne l'empêchent de dormir depuis des mois.
Un coup de vent et c'est comme une machine à laver. Bouh, bouh, bouh. Vous êtes envahi par le bruit partout dans le jardin. Tout d'un seul coup, vous avez un petit peu de tranquillité et puis le lendemain, ça n'existe plus. Vous avez la machine à laver qui se remet en route et ça peut durer une journée entière.
Un calvaire qui va bientôt prendre fin. Dans quelques jours, voilà ce qu'elle verra. Des éoliennes à l'arrêt. L'État a décidé de suspendre l'activité du parc, jugé trop bruyant par des études acoustiques.
Nous avons pu constater, avec la restitution donc des études, qu'il y avait dépassement des seuils réglementaires donc d'émergence de bruit.
L'arrêté préfectoral doit être publié ces prochains jours. L'exploitant aura ensuite 24 heures pour stopper ses éoliennes. Ce riverain est soulagé.
C'est une vraie première reconnaissance de l'État des nuisances qu'on subit et dont on témoigne depuis 1 an et demi. Et nous, on compte même plus en années, ni en mois, c'est en jours, c'est 600, plus de 600 jours et 600 une nuit. C'est comme ça qu'on compte le temps. Quand vous devez changer de chambre parce que vous pouvez plus dormir, on peut pas mépriser ça et on avait vraiment le sentiment d'être méprisé jusque-là.
France Culture, De cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Pollution sonore, pollution alors avec les ondes aussi, effets avérés sur la santé humaine et animale. Hein, on aurait pu passer à un autre sujet avec des éleveurs qui ont vu leur production de lait chuter, par exemple, à partir de la mise en place ou de à proximité de d'éoliennes ou des bêtes mourir. Grégoire Souchet, concrètement, ces questions de syndrome hein, des éoliennes, hein, c'est comme cela qu'on en parle. Ça fait partie de ces réticences et des peut-être nouvelles normes aussi hein, de proximité ou d'habitation ou d'élevage notamment. On sent que là aussi, ce sont des griefs qui retiennent l'attention et qui pourraient améliorer un peu la situation.
Oui, en fait, ce qu'il y a, c'est que là, on est effectivement dans les impacts directs, on va dire, sur la population qui habite le plus proche des éoliennes. Pour celle qui est victime de ces problèmes, parce que ce n'est pas systématique et c'est bien tout le problème, c'est qu'il y a une dimension subjective, et quand je dis subjective, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais simplement que ce syndrome éolien, donc qui se traduit par des maux de tête, des difficultés à dormir, des choses comme ça, en fait, il existe pour des personnes, mais il n'existe pas pour tous les personnes qui sont riverains des éoliennes. On rappelle qu'on ne peut pas implanter aujourd'hui d'éoliennes à moins de 500 mètres d'une habitation, et donc c'est pour les personnes qui vivent dans les quelques premiers 2 kilomètres autour des éoliennes, en fait, hein, que le problème se pose le plus fortement. Et ce syndrome éolien a une dimension de l'effet nocebo, c'est-à-dire de la perception négative de l'objet va entraîner un renforcement des difficultés. C'est comme quand vous êtes dans votre appartement et qu'il y a une fête chez le voisin, si ça vous dérange vraiment, eh bien, en fait, ça renforce l'effet négatif, mais réel sur vous. Donc, il y a toute cette dimension qui est compliquée. Après, je voudrais quand même préciser quelque chose, c'est que on n'a jamais aussi bien connu les effets négatifs d'une énergie, notamment que l'éolien. Par rapport à d'autres énergies, que ce soit les centrales charbon, le nucléaire ou d'autres, à l'époque, on n'avait pas tous les outils d'études d'impact, etc. Et donc, si les éoliennes ont des impacts et réels, hein, on peut parler aussi des impacts sur les chauves-souris, sur certaines espèces d'oiseaux, notamment les rapaces dans des zones difficiles, eh bien, c'est parce qu'on les mesure aussi particulièrement bien. Et donc, il ne faudrait pas non plus aussi faire grief à cette technologie-là, qui en fait a été parfois vendu un peu comme une technologie miracle, alors que c'est simplement des usines de production d'électricité. Et comme n'importe quelle usine, eh bien, quand on en est proche, elle fait du bruit, en fait. Hein. C'est logique, mais à l'époque, quand les projets ont été vendus, c'était pas tout à fait le discours qui était tenu.
Pollution lumineuse aussi, hein, dénoncée.
La pollution lumineuse, mais qui tient, en fait, aussi aux normes extrêmement strictes en France, en matière d'aviation,
tout à fait.
Pas les mêmes que d'autres pays. Donc, en fait, pour chaque problème, il existe, mais il faut aussi le mettre en perspective avec ceux qui sont posés par les autres sources d'énergie qui, à l'époque, n'étaient pas aussi bien mesurées.
Stéphane Louillat, donc sur ces questions-là et d'acceptabilité aussi, c'est vrai que Grégoire Souchet a raison de rappeler, on a un recul de 15 à 20 ans, c'est peu finalement. Hein, et en ces années-là, et probablement les remontées de citoyens ou de contestations, ça a peut-être pu faire avancer un peu plus pour régler des problèmes. Qui en fait, il faut avouer qu'on a aussi vu des choses se faire un peu n'importe comment. Hein.
Complètement. Sur les deux sujets là qui sont évoqués, des nuisances sonores, mais également des nuisances visuelles et des flashs de lumière, on est effectivement sur une filière qui est récente. Il faut relativiser ces impacts aussi par rapport aux impacts des énergies auxquelles elles se substituent. Je voudrais juste rappeler qu'en fait, ces éoliennes se substituent aujourd'hui majoritairement aux énergies fossiles, dont l'effet sur le climat est notable, mais sur les paysages également. Rappelons-nous juste l'érosion du trait de côte. Rappelons-nous aussi la dessiccation de certains territoires à cause de la réduction de la pluviométrie. Rappelons aussi que le changement climatique a un effet notable sur le territoire et sur tous les territoires. Maintenant, on est sur une filière récente. malgré tout, à l'échelle du monde énergétique, les éoliennes sont dans l'histoire récente, qu'il y a des effets d'apprentissage de très bon niveau, qui tiennent compte justement des enseignements, qui tiennent compte des problématiques rencontrées et témoignées par les citoyens, qui ne les sous-estiment pas. Et sur le sujet du bruit, notamment qui est lié aux vibrations des machines, aux vibrations des pales, on a effectivement des solutions techniques, on a aussi des solutions réglementaires, on a des solutions de bridage. À partir du 1er janvier 2022, on aura des mesures systématiques de bruit. On est en train de calibrer les protocoles de mesure, mais il y aura des mesures systématiques de bruit et des capacités de bridage imposées par le préfet sur l'éolien. Sur la pollution lumineuse que vous évoquiez, qui est liée clairement, pas pour embêter les riverains, mais qui est liée vraiment à prévenir les aéronefs qui passeraient à proximité des éoliennes, qu'elles sont présentes et qu'il faut les éviter. Il y a des solutions techniques qui sont mises en œuvre et il y a une accélération qui est aussi décidée pour la mettre en œuvre, notamment l'éclairage vers le ciel, qui permet d'éviter la nuisance pour les riverains, mais également l'allumage et l'extinction de ces éclairages au passage des aéronefs. On a évoqué, alors peut-être qu'on le reprendra tout à l'heure, le sujet de l'impact de l'éolien sur la biodiversité. À nouveau, il faudrait aussi...
Si, on peut en parler maintenant. Hein.
On peut en parler maintenant.
Allez-y, bien sûr.
Pour le coup, je pense que de la même manière que j'ai pu l'évoquer sur les questions de bruit, sur les questions d'impact lumineux et de pollution lumineuse, puisque ça a été évoqué tout à l'heure, il y a aussi quelques griefs qui sont quelques controverses sur les problématiques de la biodiversité autour de l'éolien, principalement vis-à-vis des chéroptères et vis-à-vis de la vie-faune. Voilà. De la même manière qu'on peut avoir des bridages et qu'il y a des bridages sur l'éolien par rapport aux problématiques sonores, on a aussi des bridages qui sont mis en place pendant les périodes de plus forte activité des chiroptères, des chauves-souris, justement pour éviter les impacts et pour éviter la perturbation de leur déplacement. Je veux aussi rappeler que ces éoliennes qui rentrent dans la catégorie des installations classées pour la protection de l'environnement sont évaluées par les services du préfet. Alors on peut mettre du discrédit sur tout le monde, mais malgré tout, le préfet qui a autorité sur les territoires, analyse les études d'impact au même niveau qu'une installation classée pour la protection de l'environnement. Et qu'à ce titre-là, il doit s'assurer notamment que les éoliennes sont implantées dans des zones dans lesquelles on a le moindre impact, y compris sur les couloirs migratoires, pour éviter les effets que vous avez décrits vis-à-vis de la biodiversité. En bref, il faut remettre quand même en perspective, je pense, cette filière par rapport à l'ensemble des filières énergétiques auxquelles elle se substitue, je veux rappeler.
Et travailler, on imagine, avec les spécialistes soit du muséum, de la LPO, enfin, associer peut-être un peu plus largement tous ceux qui sont des connaisseurs.
Cette association, elle existe déjà. Je pourrais la décrire plus précisément tout à l'heure si vous le souhaitez, mais ça fait maintenant un nombre d'années conséquent que l'ADEME et les pouvoirs publics travaillent avec le monde des ONG, avec la LPO, avec France Nature Environnement, avec l'UICN, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, sur les problématiques de la biodiversité.
Oui, l'idée, c'est de trouver des solutions.
L'idée, c'est de trouver des solutions. L'idée, c'est surtout de ne pas se voiler la face, de regarder les choses en face, de prendre pleinement conscience de ces impacts et d'agir. Et les acteurs de la filière et les pouvoirs publics ont pleinement conscience qu'il faut agir, notamment parce que les éoliennes font partie de cet avenir énergétique et que pour y arriver, avec le moins de ruptures possible, il faut s'assurer que la façon avec laquelle se développe soit la plus acceptable ou désirable possible.
Julien Lacaze.
Oui, alors pour remettre les choses en perspective, disons qu'on a actuellement un peu plus de 8000 éoliennes qui, en moyenne, doivent faire une centaine de mètres, peut-être 100, 120 mètres, 130 mètres de haut. Et que, donc d'ici 2028, c'est-à-dire ça c'est demain, il s'agit d'en ajouter à minima, ce sont les chiffres du gouvernement, 6500 nouvelles. Bon, en réalité, ça va doubler. Il faut savoir que leur dimension double aussi. La dernière génération, là, dont je vous ai parlé, c'est donc 240 mètres. Et ça va très très vite parce que le précédent record était tenu un an avant par une éolienne qui avait 200 mètres seulement de haut. Il faut savoir que plus on va chercher haut, effectivement, plus elles sont productives, plus elles sont rentables. Donc je reviens quand même sur ces machines de 240 mètres de haut. Évidemment, les textes prévoient des possibilités de compensation qui doivent être étudiées. Et donc là, il faut savoir qu'il y a 22 maisons qui sont à moins d'un kilomètre en fait de ces machines de 240 mètres de haut, pour être très concret. Il y en a 4 qui sont à 610 mètres. Et donc, à ces quatre personnes qui sont à 610 mètres donc de structure en acier quand même, qui font 240 mètres de haut, on leur dit, là je cite l'étude d'impact, « Le ressenti par rapport à un parc éolien étant subjectif, aucun impact ne peut être clairement identifié. Aucune mesure n'est donc proposée. » Donc là, on est dans le déni le plus complet, parce que j'ai entendu le mot subjectif qui revenait.
Et quand vous dites « on leur propose ça », c'est qui, concrètement qui,
l'étude d'impact, c'est l'étude d'impact faite par le promoteur. Donc il n'y a pas lieu à indemniser. Oui. C'est-à-dire, on dit à ces gens qui sont quand même victimes de quelque chose qui est infernal pour eux, qui était à la campagne, qui devient en fait une zone entre la campagne et l'industrie. Et oui, c'est ça qui est terrible avec ces machines.
Circuler,
ils ont mal vu. Voilà, ils ont mal compris. Et que ça pourrait, au contraire, plaire peut-être à quelqu'un d'être à côté de ces machines. Voilà.
Stéphane Louya, on doit quand même préciser que depuis la rentrée, est annoncée la nomination d'un médiateur de l'éolien. Ça veut dire que, est-ce que sur des cas comme ça, cités par Julien Lacaze, l'État peut regarder et estimer qu'il y a des impacts ?
Non, mais l'État regarde sur tous les projets, pas uniquement sur ceux qui sont évoqués à l'instant.
D'accord.
L'État se prononce par les services du préfet sur tous les projets qui sont présentés, comme j'ai indiqué tout à l'heure, puisqu'on est sur des installations qui rentrent dans la catégorie des installations classées pour l'environnement. Et donc le préfet a autorité à regarder et à analyser et à donner un accord sur ce projet. Donc il y a un certain nombre de projets litigieux, tels qu'ils ont été évoqués. Les études d'impact sont des études d'impact, mais l'avis du préfet ne se dicte pas uniquement sur les études d'impact. Il y a effectivement un sujet de médiateur de l'éolien qui va s'installer au sein des services concentrés de l'État, au sein du ministère. Je rappelle quand même que les préfets sont aussi garants de la tranquillité publique sur les territoires et du respect des règles sur les territoires. Et qu'à ce titre-là, si on fait l'analyse des projets qui ont été déposés sur les 18 derniers mois, on se rend compte qu'il y a un tiers des projets qui ont fait l'objet de rejets des préfets. Donc on ne peut pas juste laisser supposer que les préfets rejettent aucun projet et qu'ils acceptent tous les projets.
Ils se rapprochent de l'ADEME en général pour mieux saisir les dossiers, mieux comprendre.
Alors, l'ADEME est présente sur les territoires, puisque l'ADEME est représentée avec des directions régionales. L'ADEME d'ailleurs ne travaille pas seule sur ces sujets. Elle travaille avec des relais, notamment portés par des associations de territoires sur les problématiques énergétiques, des syndicats d'énergie, des représentants des collectivités territoriales et notamment des régions. Et on va déployer un réseau de conseillers qui vise à accompagner justement les collectivités qui vont être, je rappelle, sollicitées obligatoirement par tous les promoteurs en amont de chacun des projets.
Et donc, associer les citoyens aussi, parce que ça, c'était quand même le grief majeur, c'était la non-association. Je voudrais donner aussi la parole à Grégory Souchet. Non, mais continuez, Stéphane Louya.
Non, je suis désolé, peut-être en attendant que Grégory Souchet. Le sujet du médiateur national, c'est quand même un sujet important, parce qu'effectivement, il permet de dépasser les débats locaux par, on va dire, une analyse nationale et peut-être un peu convergente sur l'intégralité du territoire. Je sais que c'est une analyse parfois de la controverse.
Oui.
D'avoir une analyse uniquement dédiée projet par projet, ce qui n'est, il faut le dire, pas le cas, et ce qui le sera encore moins avec l'arrivée de ce médiateur national de l'éolien.
Grégoire Souchet, j'ai dit Grégory, mais c'est Grégoire, bien évidemment.
Tout à fait. Pour rebondir à ce qu'il vient d'être dit, je suis d'accord sur cette idée de présence de l'État qui évalue sur des projets. Par contre, il y a une dimension de la question de l'éolien qui n'a pas été évoquée, c'est que au-delà du projet lui-même, l'éolien est développé par des entreprises privées. C'est la logique des éoliennes. Et c'est des projets capitalistes au sens propre. C'est-à-dire qu'il faut du capital et un grand nombre, 1,4 million d'euros environ pour 1 mégawattheure. C'est à peu près les chiffres. Ça peut être augmenté avec la taille des éoliennes. Et on est dans une logique d'un promoteur privé qui va développer un projet à un endroit donné pour lequel il va obtenir une autorisation ou non. Avec ensuite un rachat contractuel d'électricité par EDF à l'époque et puis aujourd'hui sur le marché de l'électricité. Donc on est dans un rapport à l'électricité qui est aussi un rapport commercial et un rapport marchand. Et en fait avec des acteurs, ceux qui ont les moyens de d'avoir des investissements et même de lever des fonds pour plusieurs millions d'euros d'un coup, on n'est pas sur du petit acteur. Et c'est un des problèmes de l'éolien, c'est que c'est nécessairement grand. C'est parce que pour avoir la quantité d'énergie suffisante pour les rendre suffisamment rentables en fait, et ben il faut monter assez haut et donc faire des grandes éoliennes. C'est pour ça qu'on fait pas des toutes petites éoliennes.
Alors,
et le problème, c'est que cette logique là s'est installée au moment où on a libéralisé le marché de l'énergie. en France et plus largement surtout en Europe au début des années 2000. Et ça a été concomitant le développement d'éolien de cette libéralisation. Et avec, eh ben, tous les problèmes qu'on a pu retrouver dans la libération des marchés, c'est-à-dire des pratiques un peu frauduleuses parfois, avec des mensonges, avec des personnes qui venaient vendre des projets en disant qu'ils n'étaient pas plus haut qu'un arbre, alors qu'ils étaient, c'était l'entrée du mât qui n'était pas plus haut que l'arbre. Et tout ça a créé un climat quand même un petit peu d'opportunisme, parce que c'était très rentable en fait d'aller dans l'éolien vu les tarifs de rachat qui étaient proposés à l'époque. Et donc faut pas oublier voilà que on est dans une logique de marché et pas du tout de planification. D'ailleurs le mot par les administrations elles-mêmes, quand il était évoqué par certains développeurs pour dire « Attendez, on peut pas mettre un parc là, un parc là, un parc là, il faut se coordonner sur un territoire justement pour éviter l'encerclement », eh bien à l'époque, on leur renvoyait que vous étiez soviétique, que vous étiez pour l'URSS parce que vous parliez de planification. C'est quelque chose qui a été, je pense, un vrai problème dans l'éolien en France.
D'accord. Alors du coup, à ce stade de l'émission, je vous donne la parole Stéphane Louya et ensuite on va écouter le choix musical de Grégoire Souchet.
Merci beaucoup de me donner la parole. Alors le sujet de la planification, il est effectivement essentiel puisque le développement de l'éolien nécessite cette planification et que c'est une des orientations récentes souhaitées par le gouvernement, c'est justement de demander aux préfets de définir des zones favorables au développement d'éolien, et quand on parle de zones favorables, c'est pas uniquement en termes de gisement et de ressources de vent. Le mot gisement et de ressources a été évoqué tout à l'heure. C'est aussi des zones favorables par rapport aux problématiques de paysage, par rapport aux problématiques de biodiversité et par rapport aussi aux problématiques de présence d'éoliennes sur les territoires pour éviter les effets d'encerclement que vous avez évoqués tout à l'heure. Donc la planification arrive. Elle arrive peut-être tardivement, tel que ça a été évoqué, mais elle arrive.
Alors, on reprendra, bien sûr, je vois Julien Lacasse qui veut intervenir. Je pense que tout le monde veut intervenir. On va juste écouter ce choix musical de Grégoire Souchet. Vous avez choisi de nous faire écouter Bob Dylan, c'est ça?
Et oui, Blowing the Wind.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Blow in the Wind de Bob Dylan, et c'est sur cette chanson que nous poursuivons le magazine de l'environnement sur France Culture en direct, avec pour sujet principal les éoliennes, leur implantation et leur acceptabilité en France, et des récits de lutte contre certains projets locaux comme à Illiers-Combray, en terre proustienne, où l'argument de la protection du patrimoine littéraire a eu raison pour l'heure de certaines de ces énergies renouvelables et de ces éoliennes, un terrain sensible dont nous discutons toujours avec Julien Lacaze, président de l'association Cité Monument, Stéphane Louis, chef de service adjoint à l'ADEME, au service réseau énergie renouvelable. Et puis Grégoire Souchet, journaliste à Reporter, auteur du livre Les Mirages de l'éolien, édité au Seuil dans la collection Reporter. Mais avant d'aller plus loin avec vous, messieurs, il est temps de retrouver l'œil du monde planète, direction la rédaction du journal Le Monde. Notre partenaire média, coup de projecteur sur une information choisie ce soir par Mathilde Gérard. Bonsoir Mathilde, vous allez nous parler du premier abattoir mobile que vous avez visité en Bourgogne. En quoi consiste-t-il ?
Bonsoir Aurélie. Alors effectivement, il s'agit de camions qui se déplacent de ferme en ferme pour abattre les animaux directement dans leur lieu de vie, accompagnés par leur éleveur. C'est un dispositif nouveau qui n'a que quelques semaines d'existence et qui tourne, vous l'avez dit, sur la Bourgogne. Concrètement, on a trois camions qui communiquent entre eux et qui reproduisent en condensé toute une chaîne d'abattage. Donc, c'est un sacré défi de construction. Et la semaine dernière, j'ai pu assister à l'abattage de deux vaches. Alors, ça reste un moment grave. Pour l'éleveur, c'est dur de se séparer de sa vache, même s'il sait que c'est sa finalité. Mais ça se passe dans un très grand calme, sans stress, avec beaucoup de respect. Et ce dispositif, il change aussi les conditions de travail pour les abatteurs, parce qu'on est très loin des cadences des abattoirs classiques. Et puis, les opérateurs apprennent à connaître le milieu de l'élevage avec lequel certains n'avaient aucun contact auparavant.
Et alors, qui est à l'origine de cette initiative ?
Alors, ce dispositif, on le doit à une éleveuse, Émilie Janin, qui élève des vaches charolaises en Côte d'Or. Émilie, elle explique qu'elle a toujours eu la boule au ventre quand ses vaches partaient vers l'abattoir parce qu'elle ne savait pas quel trajet elle ferait et dans quelles conditions elle serait traitée. Et puis, comme beaucoup d'entre nous, elle avait vu les vidéos tournées dans des abattoirs par l'association L214 et elle refusait que ces vaches, dont elle a pris le plus grand soin tout au long de leur vie, finissent maltraitées. Pour elle, ça gâchait son travail d'éleveuse. L'idée du camion d'abattage, elle lui est venue presque par hasard, en fait, lors d'un voyage en Suède en 2016 où elle s'était rendue pour un documentaire. Et c'est là qu'elle a découvert le dispositif et s'est dit que c'était probablement la réponse à ses inquiétudes.
Alors on peut imaginer, Mathilde Gérard, que pour elle, ça n'a pas été très simple de concrétiser un tel projet.
Non, ça a été très très compliqué parce que la législation ne permettait pas jusqu'à peu cet abattage à la ferme. Donc il a fallu un amendement à la loi Egalim et un décret publié en 2019 pour permettre une expérimentation. Ensuite, il a fallu lever des fonds parce que la construction des camions est très coûteuse. Ils sont évalués à 1,5 million d'euros. Et puis il a fallu aussi penser à un modèle commercial qui tienne la route. D'où la création d'une marque qui s'appelle le Bœuf Éthique, qui commercialise la viande issue des animaux traités par les camions. Et puis, les principes défendus par Émilie Janin suscitent aussi des crispations parce qu'elle remet en cause le modèle en place, en quelque sorte. En France, on sait que le nombre d'abattoirs a complètement fondu. On en avait plus de 1200 dans les années 70 contre plus que 260 aujourd'hui. Donc, on a une très forte concentration des abattoirs qui font de très gros volumes et les animaux qui sont contraints à faire de plus longues distances pour être abattus. Et ce contexte que déplore Émilie Janin lui vaut beaucoup de pression. Alors aujourd'hui, ça fait 3 mois à peu près que ces camions tournent, donc c'est encore tôt pour tirer un bilan de cette initiative. Mais en tout cas, il y a d'autres projets d'abattage mobile qui sont en gestation dans d'autres régions de France. Et c'est un signe que, en tout cas, un peu partout, des éleveurs veulent avoir davantage de maîtrise sur l'ensemble de la chaîne et pouvoir offrir une meilleure fin de vie à leurs vaches.
Merci Mathilde Gérard pour ce retour d'expérience et comme d'habitude votre article touchant et sensible que je conseille vraiment à nos auditeurs est à retrouver sur le site franceculture.fr et sur celui du Monde, donc lemonde.fr.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
À proximité de la forêt de Brocéliande, là où Merlin l'enchanteur a sévi, quand le vent souffle, 6 éoliennes tournent à plein régime. Implantées sur la commune de Plélan-le-Grand, elles produisent de l'électricité propre pour 15 000 habitants, soit 3 fois plus que ceux qui vivent là. Une aubaine pour le maire de la commune.
Alors il y a un double intérêt financier. Pour la commune, c'est la taxe foncière, hein, aux alentours de 10 000 euros. Et puis pour la communauté de communes, à hauteur à peu près de 80 000 euros pour la nouvelle taxe qui remplace la taxe professionnelle.
Au début des années 2000, la mairie a soutenu le projet. Mais sans l'obstination de cet homme, ex-ingénieur en environnement, le parc éolien n'aurait jamais vu le jour.
On savait qu'en Allemagne, au Danemark, les gens l'avaient fait. Donc on s'est dit, ben, on n'est pas plus bêtes qu'eux, on va aussi le faire. C'est vrai qu'on nous a certainement pris pour des fous, mais il faut y croire et puis on a réussi.
À l'époque, le Danemark produisait 20% de son électricité grâce aux éoliennes. Et la population en est en grande majorité actionnaire. Un exemple suivi par ses habitants précurseurs.
C'était à peine croyable cette histoire. Mais je pense qu'on a eu envie d'y croire et puis voilà, on s'est lancé.
Tous ont investi dans le projet.
J'ai dû mettre quelque chose comme 6 000 euros, quelque chose comme ça.
Et aujourd'hui, vous êtes rentré dans votre
pays. Ah oui, 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 oui.
Extrait d'un reportage diffusé sur France 3 le 22 octobre 2015. Est-ce qu'on peut dire, Julien Lacasse, que quand les citoyens sont acteurs des projets, est-ce que c'est plus facile et mieux géré?
Alors ça va nous ramener à Marcel Proust.
On y va.
Puisqu'il y a eu un mécanisme de cet ordre, justement, pour ce parc de Marchéville, donc qui est entre Illiers-Combray et le château de Villebon, qui est le château de Guermantes. Et donc là, effectivement, alors c'est un mécanisme gradué, c'est assez intéressant. Donc les habitants peuvent prêter de l'argent. Alors c'est pas beaucoup, hein, c'est de 50 à 3000 euros. Et qui va être rémunéré par un taux d'intérêt donc de 6% pour les habitants de la région Centre-Val-de-Loire et qui est majoré à 7% pour les habitants de la communauté de communes. Voilà. Donc c'est un petit peu une plaisanterie, on va dire. Évidemment, les capitaux, les vrais capitaux montent ensuite. Hein. On le voit, il y a d'ailleurs des projets où la répartition de capital, dans un premier temps, est 50-50, et puis ensuite l'industriel monte à 80% quand les choses deviennent sérieuses. Et c'est une façon aussi un petit peu, non pas de compenser, mais d'acheter une nuisance qui en fait n'a pas de prix, parce que le paysage c'est un bien commun, et on peut pas l'acheter comme ça en rémunérant un petit peu les gens. C'est vraiment assez, moi je trouve ça assez mesquin et assez minable. Je trouve que le paysage est plus important que ça. Voilà.
Là, dans le sujet qu'on a entendu, par contre, on sent que c'était vraiment la volonté de citoyens, visiblement. Hein.
Oui.
Vous ne croyez pas trop à Julien Lacasse.
Stéphane Louya. Parce qu'en fait, les deux projets là, qui ont été évoqués, un dans le reportage audio et l'autre par M. Lacasse, ne parlent pas du tout la même gouvernance. Vous avez dans le projet de Monsieur Lacasse qu'on appelle du crowdfunding. Donc en fait, on incite les citoyens à participer financièrement pour prendre une participation à la dette, finalement comme une banque, et être rémunéré sur la dette qui est prêtée au projet qui se développe. Du projet qui était évoqué en Bretagne, qui est un projet à gouvernance citoyenne. C'est-à-dire que c'est pas uniquement un projet pour lequel on invite les citoyens à participer au capital et à la dette du projet. Ils participent en fait à la société projet et ils prennent des participations à la décision et à la décision de la façon dans laquelle le projet se porte, se mène, la façon dans laquelle les éoliennes s'implantent, quel type d'éolienne est implantée, le nombre d'éoliennes, la façon dans laquelle elles sont implantées sur le site, et ils participent à la gouvernance du projet. Ils décident aussi des niveaux de rémunération que peut avoir le projet pour ceux qui apportent du capital. Donc je pense qu'en fait on a évoqué deux
portages
différents,
hein,
voilà, c'est ça. Et les projets citoyens qui sont ceux qui se développent aujourd'hui. Oui. Un chiffre quand même, les projets citoyens aujourd'hui ce n'est que 1% des projets d'énergie renouvelable, oui, au niveau national, ce n'est que 1%. Mais c'est une dynamique récente qui n'a que 10 ans et qui s'accélère à l'image de la façon dans laquelle les projets se sont déployés en Danemark et en Allemagne, pour lequel la gouvernance des territoires et l'envie de prendre le pouvoir sur les destinées énergétiques de son territoire en comprenant les contraintes, en essayant de minimiser les impacts de ces projets, mais en comprenant aussi le rôle que les citoyens ont à jouer sur leur territoire pour l'avenir énergétique de leur territoire et pour la contribution de leur territoire à la dynamique énergétique nationale.
Et donc, mais là, ça peut se faire que sur des petites localités, on imagine.
Les projets gouvernance locale, tels qu'ils ont été présentés effectivement en Bretagne, portent des projets de taille effectivement plus modeste,
mais qui suffisent finalement pour alimenter les besoins des résidents,
qui peuvent répondre à des besoins locaux, puisque cette électricité va sur des réseaux de distribution qui sont des réseaux locaux, mais qui jouent joue aussi un rôle dans le mix énergétique global. Donc elle ne répond pas qu'à une problématique et une contrainte locale, elle répond aussi à un enjeu national.
Grégoire Souchet, sur ces questions ?
Oui, bien la question en fait qui est en creux derrière, c'est on invite des citoyens à participer à des projets citoyens de production d'énergie renouvelable, et en soi c'est une bonne chose. Alors ça représente effectivement 1% des projets, et même encore moins de la production réelle d'énergie sur le territoire, donc c'est quand même portion congrue. La question, moi, qui me semble essentielle, en fait, c'est quand on parle d'énergie, on peut pas parler que des éoliennes. Il faut parler du mix global énergétique. Oui. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que la priorité numéro un, en fait, à ce jour, c'est de diminuer nos consommations. Ou en tout cas, et de les diminuer de manière différenciée entre les parts de population les plus riches et les plus pauvres. Il y a des études qui sont sorties là-dessus sur comment les riches détruisent la planète entre guillemets. Hein, je reprends mon rédacteur en chef Hervé Kempf, et comment les riches utilisent l'énergie en fait plus que les plus pauvres pour détruire la planète parce qu'ils ont un mode de vie plus intensif. Et donc produire de l'énergie renouvelable c'est bien, mais après c'est pas comme produire en circuit court local, puisque l'énergie, l'électricité en tout cas, ça va sur un réseau et ça se mélange, on ne peut pas la labelliser précisément, on est sur des équivalences en énergie verte par rapport aux autres énergies, on ne peut pas dire tiens, tel kilowattheure est vert ou pas, puisque tout ça se mélange dans le réseau électrique. Et puis, on est encore dans une logique d'implantation de nouveaux parcs, de nouvelles productions. Alors il va falloir en faire, ça c'est sûr, il va falloir en faire de manière beaucoup plus concertée, parce que la concertation sur ces projets éoliens comme sur les autres, elle a une logique très administrative et parfois un peu kafkaïenne dans la manière de consulter les personnes sur le terrain, mais en fait le fin mot revient en fait au service du préfet, donc à l'État quelque part. Donc il y a pas vraiment d'association directe des citoyens, sauf dans les cas de Bégane, de ce cas qu'on a évoqué là juste avant, justement où il y a vraiment des citoyens qui participent à la gouvernance. Et alors certains essayent d'utiliser la manne de l'éolien pour réduire leur consommation énergétique à côté, et c'est bien, mais à un moment donné, où sont les moyens publics massifs pour réduire nos consommations d'énergie? Quand on voit les scénarios de l'ADEME elle-même qui ont été développés il y a quelques jours, transition 2050, quel que soit le scénario, même ceux qui poursuivent la production nucléaire,
il faut réduire,
il faut réduire massivement.
Et éviter le gaspillage. Grégoire Souchet, parce qu'il y a un point dont on n'a pas parlé, je pense que les auditeurs l'attendent quand même. Béton, cuivre, terre rare, souvent on fait le reproche aux éoliennes ou aux énergies renouvelables. Le recyclage est assuré à quoi ? 90% sur les éoliennes, c'est le point positif ?
Alors, il y a 90% qui est recyclable, et là depuis peu on commence à avoir des développeurs, notamment un historique qui s'appelle Vestas, danois, qui propose une solution de recyclage pour les pales d'éoliennes qui sont en fibre de verre notamment, et qui étaient comme les coques de bateau en fait, qui n'étaient pas recyclées jusqu'ici. La question, c'est pas ce qui est recyclable, mais ce qui est effectivement recyclé. Et là, on a le même problème que sur les autres sujets déchets, c'est-à-dire que il y a un grand gap entre les deux, et les filières de recyclage réelles, en fait, elles ne sont pas à hauteur de ce qui est recyclable. Voilà. Donc le problème des éoliennes, en fait, c'est surtout un problème de filière de déchets. Oui. Par contre, une éolienne est intégralement démontable. On peut enlever même le socle de béton et le concasser pour le réutiliser. On peut refondre le cuivre.
Donc on peut être vertueux.
Il y a beaucoup de choses qu'on peut enlever. Oui. Certains peuvent même renaturer les espaces où elles ont été implantées en quelques années. Donc ça, c'est quand même une nouveauté par rapport à une centrale nucléaire où les démontages sont en cours. Mais par contre, remettre un sol où il y a une centrale nucléaire en état naturel avant, on ne sait pas le faire encore.
Stéphane Louya et ensuite Julien Lacaze.
Oui, rapidement. Oui. Sur le sujet du recyclage, effectivement, plus de 90% des matériaux qui constituent, enfin de la masse des matériaux qui constituent une éolienne sont recyclables. C'est principalement de l'acier, du cuivre, du béton et de l'aluminium.
Encore faut-il le faire, quoi. C'est ce qu'on a compris.
Pour pouvoir le faire, il faut qu'on ait des filières. Et pour avoir des filières, il faut qu'il y ait un marché. C'est-à-dire qu'il faut commencer à avoir des éoliennes à démanteler, comme sur toutes les filières, comme sur toutes les déchets, pour que des filières se mettent en place pour recycler ces éoliennes. Mais il y a une injonction. réglementaire qui fait qu'à partir de 2022, les parcs éoliens en démantèlement devront recycler, et c'est pas uniquement être recyclable, mais c'est recycler effectivement 90% de la masse de l'éolienne. Et ça, c'est à partir de l'année prochaine. Et en 2024, on montera à 95%. On a déjà des pales éoliennes qui sont 100% recyclables. Donc on a des industriels qui travaillent à développer des pales qui sont intégralement recyclables, puisque c'était une des difficultés dans la recyclabilité de la filière.
Julien Lacaze, il nous reste que quelques minutes. Réagissez aussi sur le mix énergétique, c'est-à-dire que l'idéal, ce serait quoi ?
L'idéal, ce serait quoi ?
Selon vous ?
Ce serait d'avoir effectivement une source de production d'électricité, je dirais, la plus concentrée possible. Pour, du point de vue de la défense des paysages. Après, il y a d'autres enjeux. De façon à ne pas avoir cet aspect complètement diffus et inefficace, avec un facteur de charge qui est mauvais par rapport au nucléaire, qui est excellent, mais avec effectivement des problèmes de déchets. Mais ce qu'il faut bien comprendre...
Un peu d'éolien, un peu de solaire, un peu de géothermie, un peu d'hydrogène...
À l'avenir, si on met... Donc, plus on met d'éolien... plus on aura de développement des réseaux et plus on aura aussi de développement des solutions, je dirais, pour absorber en fait leur intermittence, c'est-à-dire des solutions de stockage qui sont, alors, ou bien ce sont des mini-lacs, donc qui consomment de la terre agricole, ou bien ce sont des usines, en fait, pour faire de l'hydrogène par électrolyse, enfin bon, par des procédés. Donc tout ça, ça a vraiment un coût paysager qui est absolument énorme. Donc il y a les machines elles-mêmes, et dans les scénarios les plus ambitieux là de RTE, il s'agit de monter à plus de 30 000 machines. On est à 8 000 aujourd'hui, donc c'est absolument considérable, avec des machines qui sont très hautes. Je ne parle pas des panneaux photovoltaïques. À ça, il faut ajouter des réseaux, parce que comme c'est un mode décentralisé en fait de protection, de production de l'énergie, il faut plein de réseaux dans tous les sens. Il faut des solutions de stockage qui ont aussi un impact sur les paysages. Donc est-ce qu'on n'est pas en train, pour essayer de sauver la planète, finalement, de la détruire paradoxalement ?
Et du coup, on fait quoi ?
On aboutit à un système en fait qui est d'industrialisation de la campagne.
Mais on garde les pipelines, on garde les énergies fossiles, qu'est-ce qu'on fait ?
Pour le moment,
on sent bien que le
nucléaire, pour nous, est une solution pour les paysages, en tous les cas, qui est très bonne. Après, on nie pas qu'il y a des inconvénients aussi. Peut-être qu'il faut rechercher justement dans cette direction-là ou dans une autre.
Alors vous...
Mais on va vers une catastrophe.
Vous prononcez le mot recherche, je crois qu'il est essentiel, Stéphane Louillat. C'est la recherche et les moyens à la recherche.
Et il est essentiel dans tous les secteurs d'activité des énergies renouvelables, y compris sur les problématiques de réseau que vous évoquez, y compris sur les filières d'énergie renouvelable, et il a été annoncé également des crédits de recherche pour le nucléaire. Bref, toutes les solutions énergétiques bénéficient des subsides de l'État sur les recherches, parce qu'effectivement on a besoin d'inventer des solutions qui sont moins impactantes, des solutions qui répondent, qui sont plus efficaces, des solutions qui nous amènent finalement sur la trajectoire de laquelle on ne peut pas se permettre de sortir, je le rappelle, qui est la neutralité carbone en 2050. Alors effectivement, on a les mêmes lectures, puisque j'ai le loisir aussi de lire en long et en large les études de RTE. On a cité les prospectives ADEME, je vous invite à les lire également, puisqu'elles donnent de la visibilité sur différents scénarios, différents modèles de société, différentes trajectoires. C'est aux politiques finalement de choisir quel est l'avenir énergétique et quelles sont les solutions énergétiques qu'ils souhaitent mettre en œuvre. En tout cas, les travaux de RTE, les travaux de l'ADEME donnent des voies, donnent des pistes, indiquent aussi ce qu'il ne faut pas rater, c'est-à-dire cette neutralité carbone, cette lutte impérative contre le changement climatique, et qui doit, il est clair, ne pas se faire au détriment des citoyens, des paysages et de l'environnement.
Et donc tenir compte quand même des griefs, des remontées aussi des citoyens pour améliorer, c'est ce qu'on dit, et puis trouver des solutions qui soient peut-être moins impactantes et sur les paysages et sur la santé.
C'est ce que je me suis efforcé à évoquer pendant votre émission. C'est d'expliquer effectivement que ces filières, et pas uniquement l'éolien, développent des solutions permettant de réduire au maximum les impacts évoqués précédemment et non simulés par les citoyens.
Dossier à suivre, en tout cas, messieurs. Merci à tous les trois. Julien Lacaze, Stéphane Louillat, Grégoire Souchet. Je rappelle le titre de votre livre, Les Mirages de l'éolien, édité au Seuil dans la collection Reporter. Bibliographie, liens et autres informations sont toujours à retrouver sur notre site franceculture.fr, rubrique de cause à effet. Téléchargement, réécoute à déguster. Et puis, comme disait Proust, le véritable voyage ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux.